La lecture, elle évolue, vous avez sûrement dû la voir évoluer, puis ça fait dizaines d'années.
Ah oui, trentaine. Ouais.
Vous avez peut-être peur du numérique. Est-ce que les ordinateurs, les liseuses, le fait que les gens maintenant lisent vachement sur les écrans, est-ce que ça remplacera un jour le papier, à votre avis? Ou vraiment le côté lecture va s'installer
J'ai l'impression que ça, on en a eu déjà très peur il y a une dizaine d'années, quand il y a toutes les liseuses justement qui ont débarqué, les livres électroniques. Et finalement, proportionnellement, on voit qu'on continue à publier beaucoup, beaucoup de livres en format papier, que l'objet reste important pour tout le monde. Enfin, moi, je vois en tout cas dans mes relevés de ventes que c'est hyper dérisoire, en fait, le nombre de ventes en numérique par rapport aux livres papier. Donc, j'ai pas du tout l'impression qu'on est envahi, en tout cas, par ça, dans le format liseuse, etc. Et que c'est souvent des lecteurs et lectrices qui lisent du papier, qui ont aussi une liseuse pour des aspects pratiques quand ils partent en voyage ou fonctionnels ou des trucs comme ça. Donc voilà. Après, il y a des trucs très interpellants avec ChatGPT, etc.
Oui, il y a plusieurs.
Aujourd'hui, par exemple, ça c'est. Voilà, et j'espère que ça arrivera aussi à être détourné et à peut-être parfois l'utiliser de manière plus décalée. Voilà, je ne suis pas une angoissée en tout cas du numérique et je pense que les deux coexistent depuis pas mal de temps.
Est-ce que écrivaine est un métier que vous conseillerez à des jeunes ou est-ce difficile de se faire une place dans le domaine de la littérature?
Alors c'est difficile, hein, ça c'est sûr. Donc c'est vraiment un métier qui demande des choix, qui demande de l'obstination, une dose quand même de sacrifice aussi, je pense, parce que c'est un réel investissement. En fait, donc moi j'ai l'impression que je travaille, et je pense que c'est l'impression qu'a ma famille aussi, qu'en fait je travaille tout le temps, en fait, parce que quand j'écris pas, ben, je suis en déplacement pour des rencontres, pour des salons, ça se fait le week-end, donc on écrit la semaine, enfin voilà. Et puis ben, l'essentiel aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure dans l'échange et les questions-réponses, c'est que c'est un métier très précaire, en fait. Ça fait rêver beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde qui dit ah moi j'aimerais bien être écrivain ou écrivaine, mais vraiment dans la réalité de tous les jours, c'est pas bien rémunéré, il faut se battre pour être respecté, pour se faire entendre, voilà, même s'il y a beaucoup de soutien entre les auteurs et autrices, en tout cas en jeunesse, et des structures qui existent pour défendre nos droits, on est vraiment dans un métier où il s'agit de défendre ses droits. donc voilà, c'est très très compliqué.
Est-ce que Eden est votre livre qui a eu le plus de succès ou combien d'exemplaires avez-vous vendu?
Eh bien en fait, pour Eden, je ne sais pas encore exactement combien d'exemplaires sont vendus parce que les relevés des ventes, c'est une fois par an. Donc ça va arriver à la fin du mois de juin. Et donc j'ai eu ceux de l'année précédente, où là le livre n'avait même pas encore un an et il n'avait pas encore toutes les sélections pour les prix, etc. qu'il a eu cette année. Donc j'ai pas d'estimation. Je sais qu'il a déjà été réimprimé plusieurs fois, ce qui ça est une bonne indication. Et sinon un autre livre qui a bien fonctionné, c'est comme je le disais, 2 secondes en moins. Et là je pense qu'on est un peu plus de 15 000 exemplaires, un truc comme ça.
Quel a été votre parcours pour faire éditer votre premier roman?
En fait, j'ai écrit ce texte-là dans le cadre d'un atelier d'écriture, donc vraiment avec un groupe où chacun avait un projet et on se voyait pendant l'année pour écrire et commenter ce que les autres faisaient. Et puis, à la fin de l'année scolaire, moi, j'avais mon manuscrit et voilà, j'avais envie de le partager, donc je me suis dit que c'était le bon manuscrit à envoyer. Donc, j'ai sélectionné 10 maisons d'édition en jeunesse que j'aimais, dont j'avais déjà lu certains livres du catalogue, etc. Et j'ai envoyé mon texte à l'époque encore en version papier, donc par la poste, ce qui se fait beaucoup moins aujourd'hui. Et voilà. Et puis je suis partie enseigner au Canada. Et là, quelques semaines après, j'ai appris qu'il y avait une maison d'édition qui était intéressée pour le publier.
Et ne serait-ce pas plus rentable de l'auto-éditer plutôt que de le faire par la maison d'édition ?
Alors peut-être que effectivement, si on fait de l'auto-édition, ben, la proportion, la somme qu'on va avoir sur le livre va être plus importante.
Ça tourne autour des 30%.
Oui, c'est ça. Et en même temps, ça demande beaucoup de travail, quoi. Et donc, ça veut dire qu'on doit gérer soi-même plein d'autres aspects, l'impression, la maquette. On doit aller voir directement les libraires, etc. Et donc, moi, je sais pour l'instant que j'ai pas du tout ni l'énergie ni l'envie pour le faire. Et que avec le temps, j'ai la chance d'être de mieux en mieux distribuée. Donc, on va dire que mes livres se trouvent de plus en plus facilement en librairie, etc. Et donc, si je m'auto-éditais en Belgique, pas sûr que le bouquin que j'auto-édite arrive jusqu'à vous ici à Aurillac
ou à Toulouse.
Voilà.
Voilà.
Donc, et puis alors. Et ça, c'est aussi un autre débat. Enfin, il y a aussi la validation du fait que ce soit publié par une maison d'édition. Souvent, ça prédispositionne plutôt bien, justement, les libraires et certaines structures qui vont donner peut-être plus de valeur au texte parce qu'il a été édité par une maison, alors qu'il y a sûrement des textes auto-édités qui sont meilleurs que certains textes qui ont été édités, hein. Voilà. Mais c'est clair que dans les représentations, pour que le texte voyage et fasse sa vie, je pense que parfois, c'est quand même beaucoup plus difficile, à moins d'avoir déjà une communauté de lecteurs ou de lectrices via des plateformes qui existent, et alors d'auto-éditer son bouquin, parce qu'on sait que
derrière,
il y aura toute une communauté qui l'a déjà lu, ou on a déjà lu des parcelles et qui a envie de le découvrir. Mais moi, je ne suis pas du tout dans cette configuration-là, donc ça ne m'a pas encore traversé l'esprit.
Et avez-vous publié des livres qui n'ont rencontré aucun succès et ont été un peu malmenés par la critique ?
Alors, malmenés par la critique, pas vraiment, parce que généralement, je dirais que en jeunesse, les chroniqueurs, les chroniqueuses, etc., s'arrêtent sur les bouquins qu'ils ont envie de partager avec d'autres, et donc c'est plutôt des chroniques positives. Donc c'est pas pour démonter complètement un livre. Et moi, je suis pas, contrairement à la littérature blanche et contemporaine, et puis même moi en jeunesse, je suis pas suffisamment connue et attendue pour qu'on m'attende au tournant et démonte mon bouquin. Voilà. Alors que fatalement, J.K. Rowling refait quelque chose, tout le monde va avoir les projecteurs sur elle et va évaluer ce qu'elle fait à l'aune d'Harry Potter, quoi. J'en suis loin. Par contre, des livres qui se vendent beaucoup moins et qui peinent à exister, qui disparaissent vite des tables ou des rayons des librairies, ça j'en ai, évidemment, quoi. Tous les livres ne fonctionnent pas aussi bien les uns que les autres, et il y a une partie un peu de mystère aussi là-dedans, même s'il y a tout le travail éditorial et de promotion qui va fatalement impacter la mise en place dans les librairies et la vie du roman. Parfois, il y a des livres qui fonctionnent très très bien alors qu'on s'y attendait pas. C'est pas toujours à quoi c'est dû.
La première page de couverture, c'est vous qui l'avez réalisée?
Non, c'est Julie Guilhem, donc voilà, c'est le directeur artistique d'Actes Sud qui a choisi de lui confier le travail, et voilà, et donc c'est elle qui a créé la couverture. Oui, bien sûr.
Les gens sont attirés souvent.
Oui, bien sûr. Oui, les couvertures, ça c'est vraiment très important, et on revient à ta question de départ aussi. Enfin, l'objet reste très très important, et la couverture, pour le coup, elle est beaucoup plus importante à ce niveau-là que au niveau numérique, quoi.
Elle doit attirer le regard.
Oui, c'est ça. Elle doit se démarquer parmi... Enfin, c'est toujours la réflexion qu'on a devant des propositions de couverture, parce qu'il y en a rarement une seule. Il y a plusieurs propositions. Et donc, on tente d'imaginer cette couverture-là au milieu de plein d'autres couvertures, et de voir est-ce qu'elle a une identité, quelque chose qui va la faire sortir du lot et appeler le regard.
Et vous avez le droit de demander, par exemple, si vous avez bien une idée précise de la couverture que vous verriez pour tel ou tel livre, vous avez le droit d'en parler à la personne qui s'en charge.
Alors, le droit, tu l'as. Moi, je ne le fais pas forcément, parce que j'estime que ce n'est pas Voilà, moi, mes compétences, je ne suis pas graphiste. Voilà, donc je suis toujours d'abord curieuse de ce qui va être proposé. Et après, généralement, on sollicite ou je me permets un retour sur ce que je vois, quoi. Au niveau du placement de la typo ou... Enfin, je sais que la couverture, après la première version, ben, on a demandé de rajouter quand même des éléments qui montraient bien que la maison était quand même un petit peu désaffectée, etc., parce que ça ne se voyait pas sur la première version, d'ajouter plus de chats plutôt qu'un ou deux, pour bien montrer qu'il y avait beaucoup d'animaux dans le roman, que ce soit plus particulier que deux chats qui traînent par là, enfin voilà, de montrer voilà, des éléments qui rappellent davantage que le roman se passe aux États-Unis. Donc c'est comme ça qu'il y a eu la boîte aux lettres, des trucs du genre. Donc il y a toujours un retour qui peut être fait, mais au point de départ, je ne demande jamais rien.
Okay. Et donc, du coup, sur la plupart de vos livres que vous avez édités, ce n'est pas du tout le même éditeur à chaque fois. Ça varie
ça peut varier. Donc, je travaille avec différents éditeurs. Au début, je travaillais exclusivement avec une maison d'édition belge qui s'appelle Alice Jeunesse. Et puis, quand j'ai consacré de plus en plus de temps à l'écriture, bah, j'ai eu plus de projets et une seule maison ne peut pas absorber, finalement, entre guillemets... tout ce qu'on écrit. Et puis c'est intéressant de travailler avec différentes équipes parce qu'elles n'ont pas le même fonctionnement, elles n'ont pas le même réseau de libraires, de journalistes, enfin voilà, on ne va pas avoir les mêmes retours sur le texte, donc c'est intéressant de combiner les approches pour continuer à en apprendre aussi sur le métier et les conditions de travail qu'on aime, quoi. Ouais.